simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous vous avons diffusé une première session de la rencontre anti-JO 2024 qui se déroulait à Saint-Denis le 21 mai 2022 et qui avait pour thème « Saccage écologique et greenwashing olympique ». Dans l'émission aujourd'hui, nous vous diffusons la seconde session qui aura pour thème « Surveillance olympique ». Comment les Jeux ont pu servir à mettre en place ou tester le contrôle des populations. Ces rencontres étaient organisées par Saccage 2024, qui rassemble des collectifs et des associations de Seine-Saint-Denis et de ses alentours, qui défendent leur espace de vie menacé par la préparation et la tenue des Jeux olympiques. À cette occasion, étaient présents d'autres collectifs dont certains d'entre eux avaient fait le déplacement depuis l'international, tels que Rio on Watch, No Olympia Hamburg, No Olympic Los Angeles, Stop JO pour Barcelone et les Pyrénées, mais aussi la Quadrature du Net, le collectif de défense des jardins d'Aubervilliers et Pleyel, Avenir pour la France.
La présentation de Jules Boykoff sur le sports washing. Merci Jules et l'interprétation faite par Alexandre. Merci.
Sports washing is when political leaders use sports events to try to launder their reputation.
Le sport washing, c'est lorsque les dirigeants politiques utilisent les événements sportifs pour essayer de blanchir leur réputation et d'apparaître légitimes sur la scène mondiale. Les autocrates utilisent souvent les méga événements sportifs pour tenter de détourner l'attention du monde de leur bilan affreux en matière de droits de l'homme, mais il y a aussi des avantages locaux. Le sport washing peut aussi aider à exciter le nationalisme et distraire les populations locales de problèmes sociaux chroniques. Avec des dirigeants mondiaux qui se rendent à des méga événements sportifs comme les Jeux Olympiques, où ils se livrent à des séances de photos avec d'autres coursiers mondiaux et autres barons du sport, le résultat s'apparente à un effet d'aura olympique pour le pays hôte et ses dirigeants politiques. Certains chercheurs font remonter des occurrences de sport washing aux anciens Jeux olympiques en Grèce ou en l'an 416 avant notre ère, en temps de guerre entre Athènes et Sparte. Athènes a engagé de nombreuses équipes qui s'illustrèrent avec succès dans la course de chars, succès qui détourna l'attention du fait qu'Athènes était en train d'essuyer des défaites durant cette guerre, donnant l'impression que tout allait pour le mieux. Les Jeux olympiques de Berlin de 1936 sont le premier exemple marquant de sport washing de l'époque moderne. Adolf Hitler et les nazis ont utilisé les Jeux de Berlin comme tremplin pour leur propre pouvoir politique. Les nazis ont même inventé une tradition spéciale pour faciliter le sport washing, tradition qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, le relais de la flamme olympique. Dans le cadre de leur stratégie, une flamme allumée au mont Olympe en Grèce s'est finalement rendue au stade olympique de Berlin où elle a enflammé le chaudron olympique.
propaganda minister Joseph Goebbels.
Le ministre de la propagande Joseph Goebbels a été immédiatement enthousiasmé par cette idée de relais de flamme olympique qui fut officiellement approuvée par le CIO en mai 1934. Traversant 7 pays en 12 jours, la route d'Olympia à Berlin a non seulement fait passer le message sur les Jeux Olympiques à venir, mais elle a également permis à Hitler de canaliser la propagande nazie à travers l'Europe centrale et du Sud-Est, zone clé de l'ambition géopolitique nazie et de la future guerre. Pendant les derniers jours du relais, les personnes choisies par le régime pour porter le flambeau à travers l'Allemagne étaient exclusivement blondes et aux yeux bleus, de parfaits exemples de la dite « race supérieure » entre guillemets « aryenne » des nazis. Des exemples plus récents de sportwashing incluent les Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, en Russie, où les Jeux ont permis à Vladimir Poutine de détourner l'attention des lois qui persécutaient ouvertement les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer, ainsi que les Jeux olympiques européens de 2019 organisé à Minsk, en Biélorussie, sous Alexandre Loukachenko, connu comme le dernier dictateur d'Europe. Un autre exemple marquant est celui des Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin. Lorsque la ville présentait sa candidature pour les Jeux d'été de 2008 en 2001, le chef du comité de candidature olympique de Pékin a déclaré que l'organisation des Jeux en Chine, début de citation, non seulement favoriserait notre économie, mais améliorerait également toutes les conditions sociales, y compris l'éducation, la santé et les droits de l'homme. Fin de citation.
Of course, this human rights heyday never arrived.
Bien sûr, cet apogée des droits de l'homme n'est jamais arrivé. En réalité, les Jeux olympiques de 2008 ont marqué un tournant dans l'intensification de la répression étatique. Sophie Richardson, directrice pour la Chine à Human Rights Watch, a affirmé « La réalité est que l'organisation des Jeux par le gouvernement chinois a été un catalyseur d'abus. » Cependant, cela n'a pas empêché le CIO de sélectionner Pékin pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver de 2022, même en sachant très bien que les promesses précédentes n'avaient pas été tenues et que les violations des droits de l'homme s'étaient poursuivies, que ce soit contre les musulmanes et les musulmans, les Ouïghours de la province du Xinjiang, les habitantes et les habitants du Tibet ou militantes et militants pour la démocratie à Hong Kong. Les supposées démocraties peuvent également se livrer au sportwashing en utilisant les Jeux olympiques pour détourner l'attention des réalités oppressives locales. Ainsi, dans les sociétés démocratiques, le sportwashing détourne l'attention du public de processus injustes comme la gentrification, l'hyperpolice, la surveillance et les SDF. Et les violations des droits de l'homme se produisent également quotidiennement dans les démocraties occidentales. Par exemple, à Los Angeles, à l'approche des Jeux olympiques de 2028, une crise humanitaire colossale de sans-abri se déroule à la vue de tous et toutes.
Los Angeles Mayor Eric Garcetti used this grim fact.
Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a utilisé ce fait sinistre pour faire du sportwashing, déclarant que, début de citation, « Je suis convaincu que d'ici les Jeux olympiques, nous pourrons mettre fin au sans-abrisme dans les rues de Los Angeles. » Fin de citation. Le sportwashing est un concept important qui ne fera que gagner en pertinence dans les jours à venir, le Qatar accueillant la Coupe du monde masculine en novembre. Il nous appartient, je le pense, de comprendre ses complexités.
Merci, et merci Alex.
Thank you, George. Thank you, Alexandre.
Qui nous protège de la police? De flashball pour bien nous traquer. Pas d'inhibition, cartouche réelle, des gens massacrés. Aucun procureur va les accuser ou attaquer. Trop de police, pas de justice. Qui nous tabasse, qui nous frappe et méprise. Système en crise, torture et supplice. Les droits de l'homme, on les jette dans la piste. Pas de pitié, pas d'amitié. J'ai pas confiance quand je vais les compter.
Alors, juste expliquer encore qu'est-ce qui se passait en Russie et les processus de surveillance et sécurisation. Discuter des liaisons entre les Jeux olympiques et les politiques autoritaires ou plutôt maintenant totalitaires. Au début, on doit se rappeler que la Russie de 2014, c'était assez libre par rapport à ce qui se passe maintenant. Alors, c'était possible de faire un peu de proteste. Là, en Russie, ce n'était pas tellement populaire, ce n'était pas tellement facile. mais c'était possible. Alors le groupe punk rock Pussy Riot a fait des protestes. On chantait une chanson «Poutine научит тебя любить родину». Poutine va t'apprendre d'aimer la patrie. Ouais, il va t'apprendre comment vivre. C'était vraiment choquant, mais les policiers ont attaqué la groupe au milieu de les médias internationaux, vous voyez là. Et puis la groupe est tellement, elles sont tellement intelligentes, ils ont inclus cette violence dans un clip et on peut le voir sur YouTube. C'est choquant, mais c'est tellement intéressant et important. Et puis, au même temps, il y avait plusieurs des militaires, des policiers secrets, FSB, GRU, et les gens comme ça, qui étaient sur place autour de les stades, tous les stades. Là, Ono, vous voyez un policier secret de la FSB. Il était habité dans ses costumes violettes pour que les guests n'aient pas peur. Et au même temps, la population... Les habitants de Sochi n'avaient pas pu la permission de faire les protestes contre les JO. Alors puis, les JO, c'était à Sochi, était la façon de tester une autre méthode de surveillance qui continue maintenant à Russie. Il y a trois phases de cet système de surveillance totale. Ça veut dire SORM, SORM 1, 2 et 3, SORM 1, 2 et 3. Le système SORM 2, était testé là au Géo. Et vous voyez là, au milieu, avec ton ordi ou appareil de téléphone, c'était tout surveillé. Entre les connexions entre vous et l'interné étaient attrapées et collectées pour les guests, pour les Russes. C'était tout inclus. Et le gouvernement de Russie a une base de données incroyablement grande. Bien sûr, ils ne lisent pas tout, mais la possibilité existe. Et c'était testé, là. Si vous vous intéressez ça, sur ces thèmes-là, je vous recommande de lire cette livre-là, The Red Web. C'est vraiment un livre absolument super. C'est en russe et en anglais. Et là, il y a aussi un bande dessinée, «Rodina slyshet», «La patrie t'écoute». Parce qu'il y avait des protestes au niveau humain, mais ce n'était pas totalement facile de faire ces protestes parce que le gouvernement... Écoute, et maintenant, on voit que s'il y a des mouvements contre la guerre en Russie, ils sont immédiatement attrapés et détruits grâce à ces technologies que les GEO ont introduites à la population.
Merci, Sven Daniel. Et maintenant, j'invite Adam et Corentin de Bruxelles sur scène.
Qui nous protège de la...
I am also not from Rio, but I lived there for a year.
Donc il s'appelle Adam, il a vécu à Rio, il est pas de là-bas, mais il a vécu là-bas.
So Brazil has specific challenges for policing.
Du coup, il y a des problématiques particulières au Brésil, en particulier au niveau des favelas. En réalité, la plupart de ces quartiers autoconstruits sont assez tranquilles. Mais il y a des enjeux associés au trafic de drogue et des gangs qui organisent ce trafic de drogue. Depuis des décennies, en fait, ces gens vivent à côté ou avec la présence de ces gangs et sans qu'il y ait eu beaucoup d'efforts de la part de la police de s'occuper de ce problème.
Despite gangs posing little threat,
donc en réalité, ces gangs de trafic de drogue ne constituaient pas vraiment une menace pour les Jeux Olympiques, dans la mesure où eux, leur objectif, ça allait plutôt être de garder les choses les plus calmes possibles, de manière à pouvoir vendre eux-mêmes de la drogue. Mais ce n'est pas la façon dont le CIO et les organisateurs des Jeux le voyaient, et au contraire, ils voulaient s'en débarrasser.
So in 2008, before Rio
Donc en 2008, avant que Rio ne remporte les Jeux Olympiques, il y a eu un petit projet connu sous le nom de pacification qui a été mis en place. Ce projet il consistait principalement à mettre des commissariats de quartier dans les favelas et engager des gens qui étaient formés au community policing, donc une forme de police de proximité, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de traduction en français. Et l'idée, c'était que les policiers qui allaient rentrer dans ces stations-là, ils n'allaient pas passer par les filières traditionnelles parce qu'il y a une espèce de racisme structurel. Et du coup, tous les flics qui rentrent dans la police, progressivement, ils adoptent ces trucs-là. Et donc là, l'idée, c'était qu'on bypasse complètement cette habitude et qu'ils aillent directement depuis l'école de police dans le commissariat de quartier.
So this started as a success. The number of deaths at the hands of police fell.
Donc ça a été un grand succès dans la mesure où le nombre de morts de la main de la police a chuté de 1137 en 2008 à seulement 416 en 2013. Donc le capitaine de la police de Santa Marta s'est rendu avec le maire de Rio et le président du Brésil à la session du CIO à Copenhague où Rio avait été choisi pour organiser les Jeux Olympiques de 2016.
But that is ultimately where things went wrong.
Voilà, c'est à partir de ce moment-là, de cette réunion à Copenhague, que les choses ont commencé à vraiment mal tourner. Donc on peut déjà avoir des critiques ou des discussions par rapport à la façon dont cette politique était menée de base. Mais à partir du moment où ça a été relié à la politique des Jeux Olympiques, là, c'est parti en cacahuète parce qu'ils ont voulu étendre le projet beaucoup trop vite.
In 2010, when one of Rio's largest favelas was pacified.
En 2010, ils ont voulu importer la même technique de pacification dans l'une des plus larges favelas de Rio, mais il n'y avait pas assez d'agents qui étaient formés aux techniques de community policing, et c'est plutôt l'armée qui a investi ces commissariats de quartier, et il n'y avait pas non plus d'argent pour participer aussi au développement des alentours. Et ce problème s'est encore plus accentué à partir de 2014-2015 parce qu'il y a eu une grosse crise économique et que les priorités financières se sont plutôt focalisées sur les JO plutôt que sur les favelas.
From 2013, rates of police violence crept up.
Donc à partir de 2013, les taux de violence de la police n'ont fait qu'augmenter. On est repassé au-dessus de la barre de 1000 meurtres de la main de la police en 2017. En 2015, il y a eu un événement marquant avec la mort d'un enfant de 2 ans qui s'appelait Eduardo de Jesus et il s'est fait qui est mort de la police quoi. Cette année-là, le quartier dans lequel il vivait, il y avait des combats à main armée quasiment tous les jours. Donc la confiance envers la police n'a fait que décroître à partir de là. Les gens avaient même limite plus confiance dans les gangs de trafic de drogue et ils voyaient la police comme simplement une des factions dans la guerre urbaine qui se menait à ce moment-là.
Ultimately, pacification expanded too fast and without enough care.
Donc au final, la politique de pacification a voulu s'étendre beaucoup trop vite, sans assez de soins apportés à la façon de le faire, dans la mesure où ils voulaient accomplir tout ça avant les JO. Au moment où les JO ont vraiment pris place, la police, les gangs et les résidents, ils se sont tous dit que cette politique de toute façon allait s'arrêter à la fin des Jeux et avec aucune idée claire de qu'est-ce qui allait se passer dans la suite.
What came next was worse.
Et en effet, ce qui s'est passé par la suite a été pire. Comme le dit Tania de Madeiros, un activiste local, il lui a expliqué en 2018 que le projet de pacification était devenu une sorte de fantôme. Tout le monde savait qu'il allait être remplacé et probablement par quelque chose de pire. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. En février 2018, l'armée a été envoyée pour donner du soutien à la police, dans la mesure où cette police elle n'était plus payée depuis des mois en raison de la faillite de l'État liée aux dépenses des JO.
Advocates for favelas and the poor campaigned strongly against.
Les activistes dans les favelas qui défendent les gens des favelas et les plus pauvres, ils ont clairement milité contre l'arrivée de l'armée dans la ville. Et parmi tous ces activistes, il y avait une certaine Marielle Franco qui était au conseil municipal et qui, elle, était née dans les favelas. Le 14 mai 2018, elle s'est fait assassiner par 2 anciens officiers de police. Ces 2 meurtriers avaient reçu les honneurs de Flavio Bolsonaro, le fils du président actuel. Et un des 2 meurtriers, sa femme et sa mère étaient employés par ce même Bolsonaro. Les 2 avait pris des photos avec l'actuel président Jair Bolsonaro, et un avait même vécu dans le même complexe d'appartements à Rio. Alors qu'il est très clair que Franco a été assassiné, la police brésilienne n'a toujours pas mené la moindre enquête et retrouvé qui est responsable de cet assassinat.
This is obviously a very egregious case, but it is not unusual.
Donc si c'est un cas particulièrement impressionnant, c'est pas pour autant que c'est inhabituel. La campagne d'élection de Bolsonaro avait en effet été explicitement basée sur l'impunité pour les meurtres de la police à Rio. Et en fait, les taux sont aujourd'hui encore plus élevés qu'ils n'ont jamais été, dans la mesure où ils se rapprochent des 2000 meurtres de la police en 2019. Et donc, sa conclusion, c'est que une politique de pacification qui aurait pu aider, une fois qu'elle a été reliée au JO, ils ont voulu aller beaucoup trop vite, et ils ont étendu la politique beaucoup trop vite, et puis après, ils ont simplement laissé un vide dans l'après JO.
Merci.
Thank you, Adam. Merci, Adam. Qui nous protège de la police ? Qui nous protège de la police ? Et qui nous protège de la police ? Qui nous protège de la police ? Pas de paix sans justice. Dans tous les pays, les gueules sont en train de nous matraquer. Gaz lacrymogène, tir de flashball pour bien nous traquer. Pas d'inhibition, cartouche réelle des gens massacrés. Aucun procureur va les... Maintenant, c'est Itani qui va présenter ce qui s'est passé avec les JO de Tokyo, qui étaient à huis clos. Pourtant, on a assisté plein de mauvaises choses.
Okay, so I want to talk about three points in relationship to Tokyo Olympics: police, security, and surveillance.
Je voudrais parler de trois choses par rapport aux JO de Tokyo et la surveillance olympique.
The first part is the increased budget.
La première chose, c'est la croissance du budget de la police. C'est on observe un peu partout, c'est pas uniquement à Tokyo et surtout Julius Boykov, ici présent, il a écrit très bien dans son livre sur ce phénomène.
And for Tokyo 2020, the security budget was $1.6 billion.
Okay, pour le JO de Tokyo, le budget pour la sécurité était 1,6 milliard de dollars américains.
Obviously, this is a huge money that went for the police, but also this created the boom for the security company's business.
Bien sûr que c'est un gros budget pour la police, mais c'est pas uniquement pour la police nationale, plutôt départementale au Japon, mais cet argent est allé aussi vers l'industrie de la sécurité privée.
So in 2018, which is
pour les JO de Tokyo, les entreprises japonaises ont créé un consortium de 16 entreprises de la sécurité privée, y compris une entreprise qui s'appelle SECOM, qui a été créée dans les années 60 pour renforcer la sécurité des JO 1964 de Tokyo.
This security joint
ce phénomène de consortium des 16 entreprises, c'est assez parlant parce que cela veut dire qu'une seule entreprise est incapable d'assurer la sécurité liée aux Jeux olympiques parce que c'est trop gigantesque.
And Tokyo 2020 is remembered as the first Olympics.
Les JO de Tokyo 2020 seront aussi, tout le monde se souviendra de ces Jeux en tant que les premiers Jeux qui ont utilisé la technologie de la reconnaissance faciale pour assurer la sécurité des Jeux.
And they also introduced the drones and other balloons, the balloons that goes up high.
Ils ont aussi introduit des drones et aussi des ballons. OK, ballons, des gros ballons qui se volent pour surveiller les gens, quoi.
So the city added thousands more security
cameras. En vue des JO en juillet 2021, une compagnie privée de chemin de fer qui s'appelle Japan Railway. Bon, avant, c'était comme en France, c'était la société publique, mais dans les années 80, le chemin de fer s'est privatisé au Japon. Mais du coup, c'est une entreprise privée, mais qui garantit le transport de la région de Tokyo, a installé les vidéosurveillances avec la reconnaissance faciale en temps réel en juillet 2021. Non seulement aux stations, mais aussi dans les trains, ils ont introduit ces vidéosurveillances.
And after the game was awarded, Japanese
government après l'attribution des JO à Tokyo en 2013, le gouvernement japonais a fait un gros contrat avec plusieurs entreprises israéliennes dans le domaine de la sécurité.
And it's important to remember that these drone technologies,
donc les technologies de pointe comme le drone, des ballons et de la reconnaissance faciale, tout ça, c'était la technologie israélienne qui ont été utilisées contre les Palestiniens, et le Japon a importé ces technologies pour les JO de Tokyo.
And in 2018, again back to the slide.
En 2018, dans la préfecture de Kanagawa, qui est en le banlieue de Tokyo, il y a eu la foire des armes et des technologies de surveillance qui montre aussi qui était une grande occasion pour la sécurité israélienne.
So in this, this is one of the posters of the event.
Dans cette photo, peut-être vous voyez pas si bien, mais il y a des drones qui sont là en droite, en haut, et le gros rouge, ça représente le drapeau japonais, donc c'est le symbole du nationalisme. Mais voilà, drone, nationalisme. Ah oui, et les anneaux olympiques, tous dans la même image.
And this was held in Todoroki Arena, which is a public facility.
Cet événement a été tenu dans l'arène Todoroki, qui est un site public.
So when the residents of
les habitants du coin ont demandé aux responsables de ce site, mais comment c'est possible? Pourquoi vous faites ça? Et la réponse était, il n'y a pas l'exposition de armes offensives. C'est uniquement des technologies gentilles comme drones et la reconnaissance faciale, et ça se pardonne.
So they said there will be only security equipment.
Mais les militants sont entrés pour voir si c'est vraiment uniquement l'exposition des technologies de surveillance et de la sécurité, mais en fait il y avait aussi l'exposition des armes à feu comme rifle et des ammunitions, tout ça.
So this leads to my last point.
Le dernier point, c'est que pendant les Jeux olympiques de Tokyo en été 2021, on a aussi observé la présence massive de la force d'autodéfense du Japon, qui est en réalité l'armée japonaise.
The Article 9 of Japanese Constitution prohibits the Japanese to have the military.
L'article 9 de la Constitution du Japon, en fait, il interdit d'avoir l'armée dans le pays.
But the current government, including
mais le gouvernement actuel qui a hérité le gouvernement qui a duré pendant longtemps de Shinzo Abe insiste que dans la constitution, il faut réformer la constitution pour que le Japon puisse s'autodéfendre.
And so when I went to Tokyo last summer,
je suis allée à Tokyo l'été dernier pour voir ce qui se passe dans la ville olympique, et moi j'ai observé que les officiers de la force d'autodéfense étaient à l'entrée des sites de compétition en uniforme.
And we have to remember that no foreign visitors were allowed last year because of the pandemic.
Et il faut se rappeler que les JO de Tokyo étaient huis clos, et il n'y avait aucun public, y compris public étrangère.
So the goal is to increase the presence.
Et cette l'renforcement de la présence de l'armée ou la force d'autodéfense a été largement accepté par le public parce que c'est les JO et c'est une occasion spéciale.
Okay, so all these things are put in place.
Et la présence de police et la force d'autodéfense, ça reste après les Jeux. Et c'est toujours avec nous. Ok, thank you very much. Merci.
Brother, you will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur 106.3.
Et maintenant, j'invite la quadrature du net pour présenter, après tout ce qui se passe ailleurs, dans deux ans. À Paris, il y aura les JO. Et qu'est-ce qu'on doit s'attendre d'ici deux ans?
Bonjour. Du coup, merci Natsuko pour la présentation. Donc, c'est exactement ça. Donc, on va vous parler de ce qui nous attend dans deux ans en France. Parce que ça fait écho un peu à ce qui a été présenté. Mais les JO sont vraiment annoncés depuis plusieurs années par les décideurs publics, par le gouvernement, comme un moment hyper important pour que ce soit une vitrine en fait de ce que la France sait faire en matière de sécurité, et qui dit sécurité dit évidemment surveillance. Donc nous on suit ça aussi depuis longtemps. En fait, faut revenir un peu en arrière pour comprendre. C'est un phénomène depuis ces dernières années d'accélération de légalisation et même de mise en œuvre de certaines technologies. Donc ça commence vers 2018-2019 où il y a un livre blanc du ministère de l'Intérieur qui vraiment c'est un programme sur plusieurs années de comment ils conçoivent la sécurité, comment ils conçoivent les forces de police. Donc il y a vraiment tout le fantasme aussi du policier augmenté, de l'omniscience dans la ville. Donc déjà avec ce document on savait que les Jeux Olympiques étaient une échéance à suivre. Ensuite, il y a eu la loi sécurité globale, il y a un an et demi, qui visait à légaliser les drones, beaucoup plus de caméras, les caméras piétons, les caméras dans les halls d'immeubles. Enfin, alors, il y a une partie de la loi qui a été censurée, mais ensuite, elle est revenue six mois plus tard dans une autre loi. Et à nouveau, déjà, cette loi, ils avaient comme objectif à l'origine, mais ils ne l'ont pas fait, de vraiment prévoir les Jeux Olympiques et de prévoir des expérimentations pour les Jeux Olympiques. Finalement, ils l'ont retirée. Mais on sait que ça va arriver très vite, parce qu'en plus, il y a le contexte qu'il y a la Coupe du Monde de rugby 2023 l'année prochaine, qui a, pareil, a été annoncée comme une répétition générale des Jeux Olympiques. Donc on sait que là, dans l'année, il va y avoir une loi ou un texte pour légaliser certaines technologies. On vous parlera, enfin Arthur vous parlera dans le détail de quoi on parle. Mais donc il y a, en gros, les Jeux Olympiques, c'est une occasion vraiment pour légaliser des technologies en fait qui sont déjà là, qui sont déjà développées, mais qui c'est l'excuse en fait qui sert de prétexte pour accélérer le débat et pour accélérer cette légalisation sans aucun débat public. Et de l'autre côté, c'est aussi vraiment une opportunité économique. On voit, il y a beaucoup de marchés publics pour les entreprises de sécurité. Et il y a, voilà, c'est ce que je disais au début, l'idée c'est de montrer au monde entier à quel point la France sait bien faire de la surveillance, mettre en avant les boîtes françaises, que ce soit Thales ou des petites start-up. C'est un événement qui joue sur ces deux tableaux. Et peut-être que tu veux nous parler du coup des technos.
Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on parle de reconnaissance faciale. En fait, il y a un peu une confusion qui est entretenue de la part de nos adversaires pour pas trop savoir exactement de quoi on parle. Peut-être que vous avez entendu le CEO dire il y aura pas de reconnaissance faciale au JO ou le gouvernement dire ça. En fait, c'est ce genre de propos-là. Ils sont très très durs à comprendre ce que ça veut dire tant qu'on n'a pas bien détaillé de quelle technologie on parle. Il faut voir la reconnaissance faciale en France. elle est autorisée depuis 2012. Depuis 2012, on a un décret qui prévoit que la police peut, dans le cadre de ses enquêtes, utiliser les images de vidéosurveillance, isoler un visage sur une image de vidéosurveillance, par exemple, et aller chercher, grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, comparer cette image-là aux fichiers de police qui contiennent aujourd'hui 8 millions de visages. Donc en France, il y a une personne sur 10 plus qui est déjà affichée par la police avec son visage dans les fichiers de police. Alors ce fichier-là, c'est le fichier des traitements des antécédents judiciaires, le TAJ, que vous connaissez sûrement et que je pense qu'une bonne partie d'entre nous ici est déjà affichée dans ce fichier. Et il y a 8 millions de visages qui peuvent être traités par reconnaissance faciale. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà fait massivement par la police. Le dernier chiffre qu'on a, c'est pour 2021. En gros, il y avait 1600 opérations de reconnaissance faciale par jour. Donc tous les jours, la police fait 1600 fois. Voilà. Donc quand le CIO nous dit qu'il n'y aura pas de reconnaissance faciale pour les JO, c'est pas vrai, parce qu'il y a déjà de la reconnaissance faciale massive tous les jours par la police qui ne vont pas arrêter pour les JO, ça n'a aucun sens. En fait, ce qu'on peut imaginer en plus de ce qui est déjà fait par la police, c'est par exemple le contrôle d'accès au stade qui serait contrôlé non pas par un vigile qui contrôlerait le ticket, mais par un système de reconnaissance faciale. Donc il faudrait que les personnes, les visiteurs ou les sportives s'enregistrent au préalable dans une base de données, et au moment d'entrer dans le stade, il y aurait un logiciel qui vérifierait que leur visage correspond bien. Ça, c'est des choses qui sont débattues. Moi, je pense que c'est pas la menace principale quand on parle de reconnaissance faciale. Ça, c'est un peu un détail. Les choses qui nous inquiètent le plus, c'est le travail que fait la police, quotidiennement. L'autre technologie de reconnaissance faciale qui est discutée, c'est non pas d'aller identifier quelqu'un qui a été pris en train de commettre un délit par une caméra de vidéosurveillance, mais c'est l'idée qu'aux abords de tous les stades, par exemple, toutes les caméras iraient chercher à identifier toute la population qui est filmée pour lancer une alerte s'il y a une personne fichée S, par exemple, qui s'approche d'un stade, pour que la police soit informée. Alors ça, c'est une pratique qui aujourd'hui n'est pas du tout autorisée, hein, évidemment, mais on commence à savoir que les services de renseignement ont déjà développé ce genre de, ou expérimentent, on ne sait pas trop encore, ce genre de pratique-là, donc vont analyser des flux de vidéos pour chercher une personne jugée dangereuse. Donc ça fait partie des technologies qui sont envisagées d'être autorisées ou expérimentées dans le cadre des Jeux Olympiques. Et on voit qu'en fait, voilà, on a trois différentes technologies de reconnaissance faciale. Une pour les enquêtes de police qui est déjà là, une autre, on va dire, le contrôle d'accès au stade qui n'est pas encore là, mais qui pourrait arriver, qui n'a pas l'air forcément la plus grave, et une dernière qui est la détection de personnes dangereuses, qui est déjà expérimentée de façon très très opaque par les services de renseignement en France et qui pourrait être un peu plus généralisée. Donc on voit que c'est difficile de parler juste de reconnaissance faciale, utiliser un seul mot pour tout ça, c'est un peu compliqué. Là où c'est encore plus confusant, c'est qu'en fait, la reconnaissance faciale, c'est qu'une technologie parmi tout un ensemble de traitements algorithmiques, de logiciels d'intelligence artificielle qu'on peut mettre sur les caméras. Et il ne faut pas que le débat sur la reconnaissance faciale occulte toutes les autres technologies qui vont être déployées, qui sont déjà déployées. Nous, on appelle ça la vidéosurveillance algorithmique, pour désigner en fait toutes les techniques qui vont analyser les images de façon automatisée. Et il n'y a pas que juste identifier une personne. Il y a principalement, nous, ce qu'on voit être développé dans une dizaine de villes en France dès aujourd'hui, des logiciels de détection de comportement. Et quand on dit détection de comportement, ce n'est pas des comportements plus très graves. Hein. Ils ne vont pas détecter des crimes ou des accidents très graves. C'est souvent des comportements assez anodins des populations en fait, qui dérangent dans la ville. Donc c'est les mendiants, les gens qui zonent, les gens qui courent alors qu'on ne devrait pas courir, les gens qui se regroupent, avec l'idée que ces logiciels-là pourraient alerter soit la police, soit les services de propreté, en gros, des endroits où il faut aller nettoyer et sortir les pauvres. Donc on voit très bien dans un événement comme les JO à quel point ça peut être utilisé pour, en démonstration de force, comme tu disais, pour montrer à quel point la France, grâce à ces très bonnes technologies, peut rendre la ville propre, peut rendre la ville agréable, hein, donc, tout ce que ça a de cynisme. Et ça, c'est des technologies qui sont, pareil, illégales aussi, mais qui sont en train de se développer quand même.
Et même pour la vidéosurveillance algorithmique, elle est même très présente dans énormément de villes. On essaye, nous, de documenter et demander des documents aux communes pour savoir lesquelles on les a mis en œuvre. Mais aujourd'hui, on pense qu'il y a vraiment énormément de communes en France qui ont ces logiciels et qu'il y en aura vraiment de plus en plus, voire toutes, d'ici quelques années. Donc, et comme le disait Arthur, la reconnaissance faciale, pareil, en fait, elle est déjà là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment démystifier cette excuse de l'expérimentation et de l'événement juste une fois. En fait, c'est déjà là. Le but, c'est de les pérenniser. Et les expérimentations, on sait comment ça finit toujours par être définitif. Du coup, en ce moment, le débat, il est vraiment faussé par ces faux prétextes de « non, on essaye juste de manière très encadrée, déjà les garanties, ça ne marche jamais ». Et en fait, c'est vraiment déjà là, et les entreprises, elles ont déjà leur logiciel, leurs produits, et le but, c'est juste de leur permettre de les vendre. Dans les quelques exemples que j'ai, par exemple, il y a déjà eu des expérimentations à l'entrée d'un stade à Metz, de faire la reconnaissance faciale. À Roland-Garros, pareil, un logiciel de vidéosurveillance algorithmique a déjà été testé, donc c'est vraiment pas nouveau, et c'est le phénomène dont je vous parlais. Peut-être on peut parler du futur, de comment, ouais. comment on peut lutter contre ça. Enfin, on va du coup parler un peu de nous aussi, parce que comment nous, on veut lutter contre ça, et on va vous proposer de faire ça avec nous. Comme je vous disais, c'est assez imminent, le texte de loi, c'est peut-être qu'un détail de tout le phénomène, mais c'est quand même assez important, et ça va être un moment où il faudra se mobiliser. Mais avant, déjà, du coup, nous, on veut un peu contrer ce timing imposé, déjà assez discrètement, mais imposé par le gouvernement. On va lancer une campagne la semaine prochaine, et en fait, l'idée, c'est de faire des plaintes collectives, donc tout le monde peut signer pour mandater la Quadrature, en fait, pour aller faire des plaintes devant la CNIL, contre en fait tout ce que Arthur a décrit, donc les caméras, le fichier TAGE, un autre fichier, le fichier TES, qui regroupe en fait les photos de l'ensemble de la population qui a une carte d'identité ou un passeport. Donc c'est un fichier qui a été créé il y a 4 ans, qui centralise les photos donc de tout le monde. Et nous, dès le début, nos craintes, c'était parce que ce fichier, il a pas besoin d'exister. Nos craintes, c'est qu'il soit utilisé pour autre chose. En fait, centraliser les visages de toute la population, c'est pas anodin. Et notamment, pour faire des croisements et pour faire de la reconnaissance faciale. Du coup, il y a ça et la reconnaissance faciale. Merci, voilà. Et l'idée, voilà, c'est d'attaquer l'État devant la CNIL. Et en fait, surtout, l'idée, c'est d'être hyper nombreux et hyper nombreuses pour donner vachement de poids à cette plainte et surtout, en fait, faire émerger le débat, parler justement des Jeux Olympiques aussi et d'en parler autrement que juste comme un moment où la France va briller, notamment par ses entreprises de surveillance. Donc voilà, ça, c'est ce que nous, on vous propose pour lutter, mais il y a évidemment plein d'autres manières.
Enfin, ça va être pour nous un peu la campagne d'aboutissement d'années de documentation, d'années de lutte, de réflexion sur ces technologies-là. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'en face, ils vont essayer de nous imposer la reconnaissance faciale au moment des JO comme un fait accompli, comme genre, la technologie, elle est là, maintenant, habituez-vous. Et nous, notre idée, c'est de prendre entièrement le contrepoint de ça et d'attaquer les technologies qui sont là depuis 15 ans, depuis 20 ans. Donc concrètement, la plainte collective auquel on espère que vous serez nombreuses à rejoindre, on va demander d'enlever les caméras de vidéosurveillance dans la rue. Toutes les caméras, on veut qu'elles partent, parce que s'il n'y a plus de caméras, mais le risque de la reconnaissance faciale disparaît, en fait. Et évidemment, on a conscience que quand on fait ça, c'est un petit peu audacieux et peut-être un peu provocant, mais c'est une façon de recadrer le débat. On ne va pas se laisser avoir par un fait accompli, par le fait que l'idée, la reconnaissance faciale est là, habituez-vous. Non, nous, on veut remonter dans le passé, éventuellement, d'enlever les caméras, d'enlever les fichiers de police qui, depuis 10 ans, fichent toute la population, fichent les visages. Et peut-être qu'on ne va pas gagner, mais peu importe, le but, c'est de rétablir un débat honnête, d'arrêter de se laisser juste enchaîner les technologies sans pouvoir vraiment y réfléchir et de retourner 15 ans en avant s'il le faut en enlevant les caméras. Vous nous verrez, j'espère, sur tous les médias de France pour lancer cette plainte collective. Donc c'est contre le ministère de l'Intérieur, ce sera contre Darmanin, la plainte. Donc rien que ça, c'est déjà enthousiasmant. Le but, c'est qu'on va demander à ce que la CNIL demande à Darmanin d'enlever toutes les caméras de France, d'effacer tous les visages des fichiers, de supprimer des fichiers, d'arrêter toutes les pratiques de reconnaissance faciale et aussi toutes les pratiques de vidéosurveillance algorithmique. Voilà, merci.
Merci.
Merci à vous.
Qui nous protège de la police ? Qui nous protège de la police ? Et qui nous protège de la police ? Qui nous protège de la police ? Pas de paix sans justice. Dans tous les pays, les gueules sont en train de nous matraquer. Gaz lacrymogène, tir de flashball pour bien nous traquer. Pas d'inhibition, cartouche réelle, des gens massacrés. Aucun procureur va les accuser ou attaquer. Trop de police, pas de justice. Qui nous tabasse, qui nous frappe et méprise. Système en crise, torture et supplice. Les droits de l'homme en léger dans la piste. Pas de pitié, pas d'amitié. J'ai pas confiance quand je vais les condamner. Faut riposter.
Merci à la Quadrature du Net. Et maintenant, j'invite l'Olympics LA.
So back to LA. We can't talk about policing.
Donc de retour à Los Angeles, on peut pas vraiment parler de la police et des Jeux Olympiques de Los Angeles sans parler des Jeux de 1984 parce qu'on vit encore avec les conséquences et les répercussions de ces Jeux.
So 1984 is.
Donc les jeux de 1984 sont souvent décrits comme des jeux qui défendaient les valeurs américaines et qui ont été gérés efficacement et qui ont été rentables.
But during ahead, or sorry, ahead of and during.
Mais en amont et pendant les jeux de 1984, la LAPD, c'est la police départementale de Los Angeles. Il y a pas vraiment d'équivalent en France. C'est une sorte de police municipale, donc qui est propre à la ville, mais avec un pouvoir beaucoup plus puissant que la police municipale française. Donc cette police-là a arrêté et a incarcéré donc beaucoup de personnes. Racisés sur des suspicions un peu bidons d'appartenance à des gangs. Et en fait, dans ce qui est connu aujourd'hui comme une grande opération contre les gangs des Jeux Olympiques. Donc la police a violemment forcé plusieurs SDF à quitter les endroits touristiques pendant les Jeux Olympiques, donc parfois en arrêtant les gens sur de fausses accusations. Plusieurs lois anti-SDF ont été votées en 1982, donc 2 ans avant les JO. Ces lois, souvent inconstitutionnelles, sont toujours utilisées pour harceler et réprimer les SDF à Los Angeles.
And it's because of the 1984 games that the LA.
Donc c'est à cause de ces Jeux Olympiques de 1984 que la police départementale de Los Angeles est l'une des plus militarisées et brutales dans les États-Unis, aux États-Unis. Pardon.
So the federal government, our military.
Le gouvernement fédéral a fourni des armes, des stratégies donc militaires à la division SWAT. Donc en fait, enfin si je ne dis pas de bêtises, c'est l'équivalent du Red JGN qu'on pourrait avoir en France, donc de la police de Los Angeles, qui a même reçu un tank.
And this type of militarization was something we never saw before.
Donc cette militarisation, c'était quelque chose sans précédent avant 1984, et donc ce matériel est toujours, enfin est resté en service après les JO.
So the tank and other hardware was put to use.
Donc ce matériel a été utilisé pour la répression, ce qu'on appelle les ghettos noirs, et pour la guerre contre la drogue lors de la dernière décennie.
And in one particular case, the LAPD.
Dans l'un des faits marquants, c'est la police de Los Angeles qui est rentrée, enfin par effraction avec les Bélis, là dans une maison, parce qu'ils affirmaient que cette maison était utilisée pour, c'était un laboratoire de drogue, et ils ont juste trouvé 2 femmes qui mangeaient de la glace et un petit paquet de weed.
And we believe it's this militarization for the Olympics.
Cette militarisation de la police a fini par créer un petit peu les conditions qui ont conduit au soulèvement de 1992 après l'acquittement des officiers de la police qui avaient battu Rodney King.
So jumping ahead to today.
Donc aujourd'hui, la police de Los Angeles a un peu moins de 10 000 officiers, mais pour les Jeux Olympiques de 2028, ils veulent passer à 3 000, donc en gros, c'est une augmentation de 30%.
And after the murder of George Floyd.
Donc après la mort de George Floyd en mai 2020, on a assisté à un des soulèvements nationaux qui ont demandé de couper le financement de la police. Donc à Los Angeles, le mouvement Black Lives Matter a réussi à faire céder le maire qui a promis des coupes dans le budget de la police. C'est ce qu'ils ont dit à l'époque. Mais finalement, donc, le programme de sécurité donc, visant à accroître la sécurité en vue des Jeux Olympiques a non seulement défait les progrès réalisés, mais en fait a mené la ville dans une direction opposée.
And sure enough, we can see leaders of the.
Donc bien sûr, les dirigeants des syndicats de la police et les tristement célèbres shérifs utilisent déjà les JO comme argument pour soutenir que Los Angeles ne peut pas se permettre de faire des coupes dans les budgets de la police.
And unfortunately, so far, they've been.
Donc malheureusement, ce sont ces voix qui ont été les plus écoutées, puisque donc le budget de la police départementale de Los Angeles a augmenté de 3% par rapport à 2020, pour un total de 1,76 milliard de dollars.
And so also in LA, currently we have
à Los Angeles, actuellement, il y a une crise des SDF, puisque donc la montée en flèche des loyers a poussé de nombreuses personnes dans la rue, enfin hors de leur maison. Et donc à Los Angeles, il y a actuellement plus de 41 000 SDF.
And last year, the head of LA.
Donc l'année dernière, Cassie Wasserman, donc le dirigeant de Los Angeles 2028, a admis que de grandes opérations contre les camps de SDF prendront probablement place l'année, donc au niveau des sites des Jeux Olympiques.
And our Olympics are called.
Les JO ont été désignés comme un événement national à sécurité spéciale, ce qui signifie que le gouvernement fédéral est responsable de la coordination de la sécurité et donc les tristement célèbres agences fédérales de contrôle de l'immigration vont probablement avoir plus de pouvoir d'autorité dans la région, et donc ce qui va exposer les personnes sans papier à de gros risques.
So just last year, LA officially
donc l'année dernière, la ville de Los Angeles a officiellement rejoint un consortium californien de sécurité publique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui réunit déjà plusieurs agences de maintien de l'ordre à l'échelle, donc à plusieurs échelles, donc l'échelle de la ville, l'échelle de l'État. On est inquiet du fait qu'ils puissent partager leur base de données. Donc la dernière fois que les Jeux Olympiques ont eu place aux États-Unis, donc c'était à Salt City Lake en 2002, il y a des preuves qui suggèrent que la NSA, donc l'Agence nationale de sécurité américaine, a utilisé la reconnaissance de masse.
And as we just heard, we're also expecting.
Pour 2028, on peut s'attendre au déploiement d'une nouvelle panoplie d'outils numériques, incluant la reconnaissance faciale, ce qui va accroître la surveillance policière, notamment vis-à-vis des communautés qui sont déjà ciblées par la police et donc qui risquent de plus pouvoir se déplacer trop librement dans la ville.
The head of LA 28.
La ville de Los Angeles a déjà dit que vos tickets, ce seront votre tête.
So, in conclusion, things are pretty bleak.
En conclusion, donc, quand on parle de la police et des Jeux Olympiques à Los Angeles, les choses sont assez floues, c'est sombre. Enfin, on a des partenariats, on est en contact avec des groupes comme donc, Stop à l'espionnage de la police de Los Angeles, qui lutte en fait contre la surveillance, la technologie de surveillance, qui montre pardon, que la police travaille et toujours de mèche en gros, avec le capital, qui fait les efforts en gros pour gentrifier un petit peu et déplacer les quartiers populaires où les ouvriers étaient avant. Merci.
Merci.
Merci Karianne, merci Fumus. Et jusqu'à présent, les intervenants ont exposé les enjeux de la sécurité avec leur point de vue, c'est-à-dire les points de vue des habitants, le point de vue de celles et ceux qui subissent l'oppression policière. Mais maintenant, je voudrais rapidement parler de l'enjeu sécuritaire le plus grand selon les organisateurs des JO. Ça, c'est la cybersécurité. Et depuis au moins une décennie, les cyberattaques de la part des pirates informatiques russes, nord-coréens, font partie de la tradition olympique aussi. Et maintenant, à cela s'ajoute un autre problème, c'est le géant numérique chinois Alibaba est devenu un des partenaires olympiques, c'est-à-dire le sponsor du Comité international olympique. Et le CIO impose ce choix d'Alibaba à tous les comités d'organisation des Jeux olympiques et Paris 2024 a accepté. Du coup, leur site web, ils utilisent Alibaba Cloud. C'est pas le secret, n'importe qui peut vérifier. Et je cite les propos sur ce sujet du préfet Ziad Kri, qui est le coordinateur national pour la sécurité des JO 2024. Je cite. Il y a un sujet de protection des données avec la réglementation européenne. C'est un sujet assez compliqué et qui ne va pas de soi. Il va falloir l'approfondir très rapidement avec le monde olympique pour voir un peu comment on fait en fonction de toutes les contraintes. Fin de citation. Et autrement dit, même le ministère de l'Intérieur de la France, il n'est pas content de ce choix. Alibaba, c'est quand même trop problématique. Et le fondateur et l'ancien PDG d'Alibaba. Et le mec blanc, là, c'est le président du Comité international olympique, qui est Thomas Bach. Le mec asiatique Jack Ma, l'ancien PDG d'Alibaba, il n'est plus le PDG parce qu'il a ouvertement critiqué la politique économique de la Chine. Et dans un pays comme la Chine, il y a des conséquences. Mais du coup, il a disparu des affaires. Il s'est fait virer par l'État chinois. Je voudrais demander à Ulf, ici présent, de l'Olympia Hamburg, pourquoi Alibaba Cloud est problématique? Parce qu'il milite non seulement contre les JO, mais il milite aussi dans le domaine numérique. Ulf, c'est quoi le problème de ce contrat entre le CIO et Alibaba? Rapidement, s'il te plaît.
Oui, je sais ça. I would like to try to answer the question of Atsuko. What I think
Merci pour cette question. Et j'ai fait rapidement des recherches et Alibaba est effectivement devenu le partenaire olympique en 2017.
And we had already
le problème, c'est il ne s'agit pas seulement de contrôle et de surveillance dans un contexte non démocratique, mais le problème n'est pas seulement l'approfondissement de l'amitié entre le partenariat et le gouvernement chinois. Ça va au-delà de cloud et le problème est beaucoup plus grand que maintenant c'est Alibaba qui fait la vente de billets des JO.
And it's not about cloud services, ticket sales, or.
Alors, ce n'est pas seulement le cloud et la vente de billets, mais avec le choix de Alibaba Cloud, en fait, en réalité, Alibaba peut prendre le contrôle de toutes les couches numériques des JO.
And we already just a few minutes before learned from Carrie Anne that the ticket.
Et déjà, Carrie Anne a exposé à quel point elle est 2028 s'attend à la technopolice renforcée par les JO 2028. Mais en tant que plateforme, Alibaba aussi, comme Google, Facebook, maintenant Meta, ils cherchent à contrôler les vecteurs de communication.
And if you want to describe platforms in an abstract way, that.
Bah, les vecteurs de communication, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en fait, les contenus et des données, bah, ça se transfère. Et tout ce transfert, c'est maintenant, c'est sous le contrôle de Alibaba. Et, oui, non seulement les données, mais aussi les médias du CEO, c'est devenu Alibaba. Et en tant que vecteur de communication, Alibaba contrôlera tout concernant les JO. Prenons un exemple. Alibaba en Chine a déjà développé un système qui s'appelle City Brain. On peut traduire ville cerveau.
And City Brain, at the first moment, I didn't believe that.
Quand j'ai vu le mot City Brain en traduction, j'ai pas cru mes yeux, mais finalement, j'ai fait des recherches et j'ai compris que il s'appelle vraiment City Brain. Et c'est une infrastructure. On contrôle non seulement les infrastructures des villes, mais aussi les personnes et leur comportement. Avec City Brain, cela permet une autre étape. Alibaba est déjà ultra puissant parce qu'il est connu en tant que le géant de l'intelligence artificielle parce que le régime chinois permet tout quoi. Mais avec ce City Brain, il va encore plus loin et il a accès à de nouveaux marchés comme les futures villes olympiques.
And as a last sentence, at the moment,
oui, ce niveau de contrôle numérique, c'est possible uniquement dans les régimes autoritaires. En France, on ne bat pas jusqu'à City Brain quoi. C'est impossible. Oui, Arthur n'est pas d'accord, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, j'espère. Mais le problème, c'est que le CIO et les JO donnent un levier pour faire ça, pour permettre Alibaba, mais pourquoi pas avec les start-up françaises comme ça. Merci, Ulf. Danke.
Merci à vous. Hein.
Ce panel, c'était intitulé Olympique.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitif sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.